À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Souleyman Bachir Diagne, je suis philosophe à Columbia University.
Cinquième épisode, la traduction comme humanisme. Bonsoir Souleyman Bachir Diagne.
Bonsoir Caroline Brouet.
Nous nous sommes quittés hier sur le mot d'Ubuntu, ce mot issu de la tradition africaine qui est devenu un concept philosophico-politique. Je vous ai interrompu dans votre élan et on a laissé la nuit, la journée, avec cette musique de l'Ubuntu qu'il faut que vous nous expliquiez aujourd'hui.
Oui, c'est un mot important et c'est d'abord un mot parce que il faut se garder de cette idée un peu essentialiste selon laquelle il y aurait tout naturellement une philosophie bantou exprimée par ce mot Ubuntu et qu'il s'agirait simplement de dégager cette philosophie telle qu'elle émane de ce mot. Ce n'est pas vrai. Comme dans toutes les langues, pour tous les concepts philosophiques, ils sont construits à partir de mots tout à fait usuels de la langue qui ne sont que des mots. Et donc ce mot Ubuntu, qui n'est pas facile à traduire, il y a beaucoup de significations possibles et imaginables, mais l'une qui est retenue le plus souvent, c'est l'idée que l'humanité se réalise dans la réciprocité. Je réalise mon humanité grâce à vous, grâce aux autres humains. Une des formes, une des traductions, ça a été de citer un philosophe kényan qui s'appelle John Beattie, qui a dit, paraphrasant Descartes, « Je suis parce que nous sommes ». L'idée que je tiens ma propre humanité, je tiens mon individualité, je tiens mon être de l'existence d'une communauté. Bref, derrière le mot Ubuntu, il y a l'idée que l'humanité est une tâche d'abord. C'est quelque chose que l'on réalise et on réalise sa propre humanité avec le soutien, avec l'appui, avec l'accompagnement d'autres humains. C'est pour cette raison qu'en français, je me suis dit, traduire cela par faire humanité ensemble, c'est une manière de rendre justice à tout ce champ sémantique couvert par ce mot. Ce qui s'est passé maintenant, historiquement, la construction philosophique de ce mot comme concept, ça a été que lorsqu'il s'est agi de sortir de l'Afrique du Sud de l'apartheid, des hommes de vision, ces hommes extraordinaires qu'ont été Nelson Mandela et Desmond Tutu, ont considéré qu'il fallait faire Ubuntu. Il fallait mettre en œuvre la puissance unificatrice de l'Ubuntu pour inventer, pour réaliser une Afrique du Sud nouvelle qui ne serait plus l'Afrique du Sud de l'apartheid. Qu'est-ce que c'était l'apartheid? C'était justement la juxtaposition d'humanités séparées. L'apartheid, comme son étymologie l'indique, c'était l'idée que les communautés ne pouvaient se développer que dans leur séparation. C'était la logique tribale dans toute son horreur. Et la fin de l'apartheid aurait pu signifier la revanche des tribus qui avaient été les tribus opprimées, les tribus noires, contre la tribu oppressive qui était la tribu afrikaner. Mais une telle revanche n'aurait pas mis fin à la logique tribale. C'était toujours la même logique tribale. Simplement, les vainqueurs d'hier devenaient les vaincus d'aujourd'hui. Ubuntu, cela permettait de sortir d'un seul coup, d'un bond, en quelque sorte, de la logique tribale pour entrer dans la logique d'un humanisme. Ubuntu, cette invitation à faire humanité ensemble, c'était la rupture radicale avec l'Afrique du Sud de l'apartheid et la tâche d'inventer une nouvelle Afrique du Sud, celle qui a été appelée la nation arc-en-ciel. Et c'est bien dans ce sens-là que Nelson Mandela et Desmond Tutu ont compris la force éthique et philosophique qui était contenue dans le mot d'Ubuntu devenu maintenant un concept de justice transitionnelle. Justice transitionnelle, c'est-à-dire rendre la justice, non pas pour punir mécaniquement en disant « bon, vous avez fait ceci, voici le tarif », mais une justice qui viserait au contraire à construire un avenir en commun. Cela s'est réalisé dans la fameuse commission Vérité et Réconciliation qui a été mise en place, une commission où il fallait faire la vérité sur les crimes de l'apartheid, parce que ceux qui avaient été victimes de ces crimes avaient besoin de savoir ce qui s'était passé. Mais avoir la vérité, avoir la vérité en vue de la réconciliation, c'était la signification de Ubuntu. Et donc, un humanisme du dépassement des tribus s'est mis en place avec ce concept d'Ubuntu. Et il me semble que c'est très important de retenir cette leçon africaine d'humanisme pour notre temps, parce que ça signifie que nous devons aussi dépasser les logiques tribales qui se sont mises en place dans notre monde, cette fois-ci,
oui, au-delà de la seule Afrique. Oui, c'est plus à l'échelle d'un pays, là, c'est à l'échelle, non pas d'un continent, mais à l'échelle mondiale.
À l'échelle mondiale, ces tribalismes dans lesquels nous vivons, il faut pouvoir les dépasser par un Ubuntu cosmique, pour ainsi dire.
La tâche est lourde, hein, Souleymane Bachir Diagne. Et si je vous suis bien, si je vous comprends bien, c'est là que réintervient le premier terme que nous avons évoqué ensemble dans cette série d'entretiens, qui est la traduction. Parce que la traduction, vous la voyez comme un humanisme, et comme l'horizon est l'humanisme, cela passerait par la traduction, puisque ça passe par un dialogue. Alors, est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quoi le fait de rapprocher deux mondes par la traduction, c'est construire un monde commun?
Mais justement, parce que la traduction, c'est la meilleure manière de faire cette opération double, qui est de bien comprendre et de tenir compte du pluriel du monde, accepter que le monde est pluriel, c'est-à-dire constater que le monde est fait de langues multiples. Et en même temps, se donner une possibilité de rencontre, puisque la manière dont les langues se rencontrent, c'est la traduction. Autrement dit, la multiplicité des langues, le mythe biblique le dit bien, nous avons été punis par Dieu lorsque la tour de Babel s'est effondrée, donc nous vivons un monde post-Babel. Dieu nous a condamnés, comme dit la Bible, à la confusion de nos langues et à la multiplicité de nos langues. Voilà. L'équivalent coranique de cela d'ailleurs, c'est de dire que Dieu vous a créé comme des tribus et des nations. Donc, nous sommes fragmentés. Et de cet état de fragmentation, ce qui résulte, c'est que nous avons la tâche de nous réunifier, en quelque sorte, de reconstituer notre humanité commune, cette humanité primitive, qui est aussi une humanité à venir. Ce qui est censé avoir été à l'origine est devenu la tâche pour l'avenir et pour notre futur. Et donc, tenir compte du pluriel du monde, c'est tenir compte du fait que nous parlons des langues différentes. Elles sont toutes équivalentes. Aucune langue n'a le privilège d'être plus universelle que les autres, de représenter mieux que les autres ce qui est la vérité, la raison, etc., comme ce qui avait été le logos. L'Europe a toujours reproduit, de ce point de vue-là, le grand partage qu'avaient effectué les Grecs entre eux-mêmes, qui parlaient grec, et les autres qui parlaient des langues barbares. D'ailleurs, le mot barbare montrait bien qu'il s'agissait de leur... C'est une onomatopée, pratiquement. C'est ceux qui disent « ba-ba-ba-ba-ba » qui sont incapables de s'exprimer de manière articulée et raisonnable.
Mais c'est ça, c'est que dans l'histoire, cette idée de langue équivalente ne s'est pas traduite dans la réalité. Il y a eu, et il y a encore, de fait, des langues dominantes. Oui. Il y a des langues qui disparaissent. Les langues elles-mêmes ne sont pas égalitaires. Alors, est-ce que votre vision des choses n'est pas un peu naïve?
Non, elle est d'autant moins naïve que je sais d'expérience, en effet, que les langues meurent. Et meurent d'avoir été tués par d'autres langues. Dans mon pays, le Sénégal, il y a le cas d'une langue qui a disparu parce que le Wolof est la lingua franca du Sénégal, une petite langue du sud du Sénégal qui n'a plus de locuteurs. La linguiste qui s'est occupée de cette langue écrit d'ailleurs qu'elle n'existe plus que comme quelques chansons. Et les personnes qui peuvent encore chanter ces chansons-là ne savent même plus ce qu'elles disent. Et donc, ça veut dire que les langues meurent. Et dans ce cas précis, ce n'est pas une langue impériale comme le français ou l'anglais qui a fait disparaître cette langue. C'est une autre langue locale qui est le Wolof. Donc, une relation, il y a des rapports de force entre les langues. Ce que fait la traduction précisément, c'est répondre à ces relations de domination. Il y a beaucoup de travaux qui montrent que la traduction elle-même est une forme de violence, est une forme de domination. Si on regarde, par exemple, la politique des traductions aujourd'hui, elle reproduit parfaitement la hiérarchie des langues. Les langues qui se traduisent le plus, c'est l'anglo-américain, etc.
Oui, on peut, pardon de vous interrompre, on peut aussi évoquer les débats qui ont cours depuis l'offensive de Vladimir Poutine en Ukraine du 24 février 2022. Oui. Débat sur la traduction des écrivains russes. L'argument de la discrimination des russophones a d'ailleurs été utilisé par Poutine comme un prétexte pour envahir l'Ukraine. Oui. Et on voit bien les difficultés aujourd'hui d'un espace qui était russophone, qui ne veut plus user de la langue russe dans un pays qui est envahi. Donc là, la langue est aussi une arme. Absolument. Elle peut être une arme symbolique. Oui. Pour donner un dernier exemple, et avant de vous redonner la parole... c'est d'ailleurs par cet exemple-là que s'ouvre votre livre de langue à langue. C'est l'exemple de la traduction qui a posé question de la poétesse noire américaine Amanda Gorman. On sait bien que là, les choses ont été compliquées, pour le dire clairement, puisque des éditeurs ont refusé de le faire traduire par un ou une, d'ailleurs, traducteur-traductrice blanche, l'appropriation culturelle étant entrée en question dans cette histoire. Enfin, voilà, tout ça est très chargé, tout ça est très symbolique. Absolument. Et tout ça est très violent.
Et très violent, et donc la politique est féroce là derrière, vous avez raison, et cet exemple d'ailleurs nous montre la férocité extraordinaire de cela. Et un contresens qui a été fait, me semble-t-il, sur la signification même de la traduction. Penser que la meilleure traductrice possible pour cette poétesse africaine-américaine, c'était une traductrice qui partagerait avec elle la même identité et donc la même expérience de ce que cela signifie être noir, c'était se tromper sur la signification de la traduction, qui est de construire des ponts, précisément de partir de la différence et de dire que la traduction, c'est cette différence surmontée. L'acte de traduire est un acte à la fois impossible et sublime, a dit le philosophe Paul Ricoeur. Impossible parce qu'au fond, une langue, c'est toujours une relation que nous avons au monde. Et donc, les langues sont différentes comme des relations différentes au monde. Une langue découpe la réalité d'une certaine manière qui n'est pas la manière dont une autre langue va découper la même réalité. Vous avez, par exemple, des langues qui se caractérisent par le fait qu'elles ont le verbe « être » comme copule. Ça, c'est le cas de toutes les langues indo-européennes. Et vous avez des langues sans copule aussi. Et donc, traduire, c'est presque comme si vous transvasiez un monde dans un autre monde. Et vous vous dites, a priori, c'est impossible. Et pourtant, on y arrive. Et pourquoi y arrive-t-on, au bout du compte? Parce qu'il y a une expérience humaine partagée. Si ma langue ne peut pas dire de manière aussi littérale, je pense donc que je suis. Parce que dans cette langue, on n'utilise pas le verbe être d'une manière absolue. Je suis, mais je suis quoi? Je suis où? Je suis comment? Etc. Eh bien, je peux quand même trouver toujours le moyen de traduire dans ma langue Wolof, je pense donc que je suis. Je peux, et les contournements, les tours et détours que les traducteurs ont dans leur sac sont multiples de ce point de vue-là, et au bout du compte, on y arrive toujours. Donc, opération impossible, mais au bout du compte que l'on rend possible, et le caractère sublime de la traduction est dans cet art de faire un pont entre des mondes différents. Et c'est cela qu'aurait fait cette traductrice néerlandaise si elle avait été celle choisie pour traduire le poème d'Amanda Gorman. Et c'est ce qu'ont fait toujours les traducteurs. Vouloir qu'il y ait une identité avec ce concept d'appropriation culturelle que l'on utilise à tort et à travers et qui ne rend pas raison de ce que peut être la relation de découverte d'une culture et d'entrée dans cette culture et d'appropriation de cette culture. Le philosophe américano-ghanéen Kwame Adpia a raison de dire « Il ne peut pas y avoir appropriation culturelle dès lors qu'il y a respect. » Le respect est premier. Quand il y a respect, lorsque votre traduction est respectueuse, c'est-à-dire que ce qu'elle vise, c'est donner hospitalité dans votre langue à ce qui s'est pensé et créé dans une autre langue et qui vous a ému et touché suffisamment pour que vous ayez envie d'effectuer cette traduction-là, il n'y a plus d'appropriation possible. Et ce que vous dites en traduisant, c'est affirmer aussi le fait qu'aucune expérience humaine, dès lors qu'elle est humaine, ne peut être étrangère à un autre humain. La vieille parole humaniste, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger, elle doit être la vérité qui ordonne et qui oriente la manière dont aujourd'hui nous avons besoin de faire humanité ensemble. Et la traduction, c'est peut-être la meilleure façon de comprendre ce que c'est que faire humanité ensemble. Je cite toujours la parole de cet écrivain kényan, Ngugi wa Thiong'o, qui a dit « La langue des langues, c'est la traduction. Si nous voulons dépasser la multiplicité, le pluralisme, le pluriel de nos langues, et donc la fragmentation que cela signifie, la confusion post-Babel que cela signifie, la seule manière de le faire, c'est la traduction, et non pas choisir une langue comme étant l'incarnation du logos, l'incarnation de l'universel sur laquelle tout le monde devrait se régler. Ça, c'était la position coloniale. Le colonialisme et l'assimilationnisme colonial. Assimilationnisme qui signifiait toujours « il faut que vous vous assimiliez en parlant ma langue ».
Colonialisme rime avec monolinguisme, dit votre ami Achille Mbembe.
C'est ce que dit Achille Mbembe, fort justement, le colonialisme est monolingue, parce que l'idéal, c'est toujours de réduire le pluriel à l'un. Le multiple n'est pas supportable, il faut toujours qu'on arrive à l'un, et c'est ce que dit le colonialisme. Abandonnez vos langues qui ne sont que des idiomes particuliers, qui ne devraient même pas avoir le statut de langue, et embrassez la langue universelle, l'incarnation du logos que je représente. Ça, c'est l'attitude impériale, c'est l'attitude coloniale. En revanche, dire « toutes les langues sont équivalentes », comme dit un poète sénégalais en langue wolof, Serigne Moussaka, « toute langue est belle qui sait de l'homme dire les vertus et la science ». Ça veut dire que la beauté des langues, c'est d'être autant d'expression de notre humanité. Et donc, les faire se rencontrer, c'est les faire se rencontrer en les mettant en relation, et la relation entre des langues, c'est précisément la traduction. Voilà. Très longuement, j'ai le sentiment de m'être exprimé longuement sur ce sujet. Mais
c'est un sujet central. Bon, vous nous avez démontré que la traduction est centrale dans votre œuvre, de l'histoire de la mathématique à la philosophie islamique. Tout est affaire de traduction. Au final, même la traduction de la parole de Dieu, la traduction en art.
Oui.
Mais c'est aussi pour mettre en application cette philosophie, Souleymane Bachir Diagne, que vous vous retrouvez ces mois-ci, ces semaines-ci, entre février et avril 2023 à Paris, à l'École normale supérieure, où nous sommes donc pour enregistrer ces émissions, avec beaucoup d'émotion de votre part, de vous retrouver ici, là où vous étiez étudiant il y a quelques années, puisque vous êtes invité par cette école et par son directeur, Frédéric Worms, a donné les premiers cours dans le cadre d'un nouveau projet d'ensemble, un projet très ambitieux, qui est né dans le sillage du sommet Afrique-France à Montpellier en 2021, qui est né aussi du rapport sur les nouvelles relations entre l'Afrique et la France rédigé par le même Achille Mbembe, l'historien et philosophe du politique, qui est partenaire aussi de ces projets. Et c'est un programme donc qui est conçu et partagé entre l'École normale supérieure à Paris, l'Université de Thiès au Sénégal, l'Université du Witwatersrand en Afrique du Sud et le campus AFD. Il y a deux choses. Il y a un cycle de cours qui s'intitule « Les nouvelles compréhensions du monde » et puis il y a un programme à l'École normale supérieure qui s'intitule Programme Sud, au pluriel, là aussi. Alors l'idée c'est quoi? C'est un programme de formation, de recherche, tout le monde apprend des langues, tout le monde se met à traduire, quelle est l'idée?
Eh bien peut-être qu'à moyen terme ce sera ça, tout le monde apprendra des langues, tout le monde apprendra à traduire. En tout cas il y a de la traduction là-dedans, la traduction d'expérience, c'est-à-dire la construction de ponts. C'est ainsi que je comprends la traduction. Le maître mot pour expliquer ce qu'on est en train de faire avec autant aussi bien le programme Sud que les nouvelles compréhensions du monde, c'est l'idée de partenariat. Être partenaire et tisser un réseau entre le Nord et le Sud, effacer en quelque sorte cette distinction entre un Nord et un Sud, parce que dès lors qu'on a de véritables réseaux, il n'y a plus de raison de distinguer comme cela un Nord et un Sud.
Pourtant, ça s'appelle programme Sud, pardon.
Ça s'appelle programme Sud, ça veut dire qu'il faut pouvoir s'ouvrir à ce qu'on appelle le Sud global. Sud au pluriel, vous avez bien indiqué que c'est le cas, pour montrer que précisément, dans le programme Sud, en écrivant Sud au pluriel, il y a la volonté de dépasser la division du monde entre un Nord et un Sud. Qu'est-ce que cela veut dire? Des universités à égalité vont proposer des formations, vont proposer des enseignements dans les domaines où ces universités sentent qu'elles ont quelque chose à dire de la manière dont nous devons comprendre notre monde aujourd'hui, les évolutions inouïes de notre monde, les changements qui se sont effectués dans ce monde et qui vont continuer de s'effectuer. Parce que, comme disent les prospectivistes, non seulement le monde change vite, mais il change de plus en plus vite. Et donc, il faut inventer de nouvelles catégories pour comprendre la marche de ce monde et pour comprendre les défis que ce monde qui change si vite présente aujourd'hui. C'est ainsi que l'Université Ibad Ertcham a proposé, dans le cadre de ce cours pilote que nous avons mis en place et qui s'appelle « Nouvelle compréhension du monde », des cours sur les questions d'environnement, parce que l'expérience particulière d'un pays comme le Sahel est importante lorsqu'il s'agit de réfléchir à la question environnementale dans notre monde aujourd'hui. Ou bien un cours sur les maladies émergentes, parce que lorsqu'il s'agit justement des maladies qui apparaissent aujourd'hui, qui naissent, voilà un cours qui est proposé. Et avec d'autres cours qui sont proposés par WITS en Afrique du Sud, ici par l'École normale. Me trouvant à l'École normale, je donne un enseignement, par exemple, sur humaniser. Nous venons de discuter un peu de ce qui sera mon propos. Voilà ce que cela signifie de penser ensemble un enseignement plutôt que de considérer que les seules relations académiques qui puissent exister, ce sont des relations où les savoirs viendraient du Nord et se déverseraient vers un Sud qui les recevrait. Il s'agit de penser ensemble, de co-construire de nouvelles compréhensions du monde.
Avec une mobilité des étudiants des enseignants.
C'est l'autre aspect, une mobilité des enseignants et des étudiants, et dans les deux sens. Ça veut dire qu'il ne s'agira pas simplement de faire venir des étudiants du Sud pour venir acquérir le savoir dans les temples du savoir que sont les universités du Nord, mais de faire que les étudiants du Nord aillent également à l'Université Ibad Ertcham de Thiès, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ou à l'Université de WITS en Afrique du Sud pour s'instruire auprès d'enseignants locaux. Et puis la recherche serait également partagée. Voilà la signification générale de ce programme Sud. Et donc, il nous appartient de loger dans ce programme Sud des projets précis comme, par exemple, celui de mon enseignement sur l'universel aujourd'hui à l'École normale supérieure.
En s'inspirant aussi, j'imagine, de ce qui a été initié par toujours, on le cite une troisième fois, Achille Mbembe, mais avec Felwine Sarr, à Dakar, avec les ateliers de la pensée, où régulièrement, d'ailleurs vous en avez fait partie, vous continuez d'être compagnon de route de ces ateliers de la pensée, où il s'agit de mettre à plat peut-être des nouvelles compréhensions du monde, d'échanger justement, de dialoguer autour de ça, et de penser peut-être aussi depuis une perspective africaine.
C'est tout à fait vrai.
On peut décentrer le regard à nouveau.
Absolument, c'est tout à fait vrai, et on peut considérer que les ateliers de la pensée créés, qui existent toujours avec de plus en plus de force, toujours autant de force, donc créés par Achille Mbembe et Felwine Sarr, ces ateliers ont donné leur modèle, d'une certaine façon, à ce programme Sud et à la manière dont nous approchons les nouvelles compréhensions du monde. Il s'agit toujours, pour reprendre le mot d'ordre des ateliers de la pensée, de considérer que les questions planétaires sont des questions africaines et les questions africaines sont des questions planétaires. Il ne s'agit pas d'avoir un Sud qui serait un Sud de l'information, de la matière première, et un Nord qui serait le Nord de la théorisation, etc. Penser notre monde, cela doit se faire depuis l'Afrique aussi. L'Afrique a une perspective unique sur le monde à dire, et le monde doit l'entendre et l'écouter. C'était cela la signification des ateliers de la pensée, c'est toujours la signification des ateliers de la pensée, et cette signification, on la retrouve en effet au fondement de ce que nous essayons d'entreprendre avec les nouvelles compréhensions du monde et avec le programme Sud.
Qu'est-ce que vous espérez, Souleymane Bachir Diagne, avec cet ensemble ?
Eh bien, comme dans tout enseignement, on espère développer des modes de pensée, des catégories philosophiques qui vont être des modes de pensée et des catégories innovants. Parce que ce monde-ci a besoin d'innovation dans nos manières de penser. Nous ne pouvons plus penser ce monde-ci avec les catégories d'hier. Nous avons discuté dans ces entretiens que nous avons eus et que j'ai eu plaisir à avoir avec vous. Nous avons parlé de la prospective, par exemple. Et je vous ai dit à quel point la philosophie de Gaston Berger, la prospective manière Gaston Berger, était importante pour moi. Et il me semble qu'elle doit être aujourd'hui de la plus grande importance dans la manière dont nous essayons de comprendre notre monde tel qu'il va ou tel qu'il va mal. L'idée que nous devons toujours avoir des phares qui éclairent l'avenir autant que nous le pouvons. Il y a une très belle image qu'utilise Gaston Berger, c'est l'image d'une voiture qui est lancée à toute vitesse sur une route que le conducteur ne connaît pas. Ça veut dire que le conducteur ne sait pas à quel moment est-ce que la route va avoir une bifurcation ou va rencontrer une courbe. C'est le moment, dit Gaston Berger, d'avoir les phares les plus puissants possibles et la capacité la plus vigilante possible d'anticipation. Et c'est à ce point que nous nous trouvons. Et donc, il nous faut pouvoir envisager des manières d'enseigner, des manières d'échanger académiquement qui tiennent compte de cela, qui tiennent compte du fait que nous avons aujourd'hui un monde dont nous ne savons pas quelle configuration va être la sienne demain. Et il nous faut avoir la capacité d'anticiper, il nous faut avoir ces phares puissants. Disons que ce que nous sommes en train de faire avec ce programme Sud, avec ces nouvelles compréhensions du monde, c'est d'essayer de projeter autant que nous le pouvons le maximum de lumière sur l'avenir qui nous attend. Et donc, pour répondre précisément à votre question, ce que j'attends, c'est cela. Qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes en particulier, dans nos universités du Nord, l'école normale, le campus AFD, encore qu'on ne puisse pas dire que le campus AFD est au nord, parce qu'il est partout, c'est un campus nomade. L'université Bader Tiam, l'université de Wits à Johannesburg chez Achille, et bien que ces jeunes-là soient armés de ces lumières que l'on essaye de projeter en direction de l'avenir.
Sur votre porte de bureau à l'École normale supérieure, il est écrit « Directeur de l'Institut d'études africaines, professeur de français et de philosophie à l'Université de Columbia, Visiting Fellow, PSL », puisque l'École normale supérieure fait partie de ce vaste ensemble de l'Université Paris Sciences Lettres. J'aimerais m'adresser au jeune garçon qui est venu là il y a quelques années pour étudier et qui faisait la fierté de son père et de sa mère. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de se dire s'ils vous regardent depuis là où ils sont?
Et mes parents doivent se dire maintenant, depuis le ciel le plus élevé du paradis où ils se trouvent, tu vois, tu as rêvé de cette école en ayant l'impression que c'était une montagne à gravir. Voici maintenant que tu y reviens, à peu près dans les mêmes conditions, puisque tu y réhabites même. Et là, tu n'es plus seulement l'élève qui essaye d'arriver, tu n'es plus l'impétrant, mais tu es le mandarin professeur que d'autres normaliens maintenant, qui étaient dans la situation qui était la tienne, viennent écouter en salle du SAN. Ils me diront, bien entendu, te voilà maintenant bien grisonnant avec les cheveux blancs, mais ça n'est pas grave.
Tu restes un phare dans la nuit, peut-être qu'ils se disent. Merci d'être ce phare dans la nuit.
Merci infiniment.
Souleymane Bachardiane. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Martin Troadec, réalisation Charlotte Roux, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.